Bonjour Eric.
Bonjour Laurence.
Pouvez-vous brièvement nous rappeler ce que veulent dire ces termes PMA, FIV, GPA ?
Eh bien oui Laurence, mais pour faire simple, la procréation médicalement assistée permet la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde grâce à une intervention médicale. Elle a pour objectif de remédier à l'infertilité médicalement diagnostiquée. La fécondation in vitro est une technique de laboratoire qui permet de féconder un ovule avec un spermatozoïde en dehors de l'utérus. Dans le cas de la gestation pour autrui, la mère porteuse fournit quant à elle un ovule. On parle alors de procréation pour autrui.
Merci Eric pour ce bref rappel et ces termes définissent simplement. Mais finalement, n'assistons-nous pas à, Eric, à l'émergence d'une science toute puissante au service de la vie ? Et vous, vous en pensez quoi ?
Eh oui, en effet Laurence, nous pourrions également ajouter à votre propos de science toute puissante, un système technicien, une science prométhéenne qui pourrait jouer demain avec le feu. En effet, nous assistons bien à l'émergence avec les avancées scientifiques, avec les progrès fulgurants des techniques médicales, un jaillissement de la vie qui se fait hors de la vie. Et voilà la problématique de demain, sortir le vivant hors du vivant, avec pourquoi pas la possibilité d'un utérus artificiel dans le futur. Finalement, à l'accomplissement d'une dénaturation complète de la manière de naître. Or, la matrice naturelle, maternelle comme paternelle, est indissociable au devenir même de l'enfant. L'enfant à naître peut de fait ressentir négativement la rupture, puis être marqué dans sa mémoire prénatale des effets même de cette dénaturation, de cette désunion, en quelque sorte avec ce lien qui l'unissait au corps de celle qui l'a porté.
Vous parlez de mémoire prénatale, Eric. De quoi s'agit-il ?
Alors, le terme de mémoire prénatale n'est pas de moi, Laurence. Il a été évoqué à la fois par des médecins, des psychothérapeutes, qui ont mis en évidence des découvertes concernant le lien utérin qui unit l'enfant et sa mère. Il faut ainsi savoir, Laurence, que le fœtus à naître est un être à la sensorialité très développée. Ce lien utérin va en effet fonder des échanges d'une grande intensité avec la maman. Il y aura dès lors comme une empreinte indélébile entre l'enfant et sa mère, la mère qui porte l'enfant à naître. La fécondation comme la naissance de l'enfant sont dès lors loin d'être une parenthèse sociale, un événement qui est abstrait dans la vie de la mère et de l'enfant. De fait, même les échanges utérins existent entre l'enfant et sa mère. Alors, il ne suffit pas d'être seulement désiré et d'être aimé. Nous apprenons de fait, et avec les dernières découvertes scientifiques, que la construction de l'identité de l'enfant est inséparable des conditions qui touchent à la dimension de la vie prénatale. Or, nous voyons bien avec les avancées techniques, les sources d'angoisse que pourrait amener un système technicien, un système médical qui est fondé sur un rapport à la technique et qui conduise finalement une forme de déconstruction de la vie. Ici, pour être clair, je veux m'appuyer sur une citation extraite d'un livre que je vous recommande vivement, « Le cri de l'enfant ». Et j'aimerais citer Anne Schaub, qui d'ailleurs, je dirais, nous rend sensible. Et je vous laisse lire sa citation, Laurence.
« N'est-il pas tragique de volontairement gommer les attaches de filiation biologique, maternelle et ou paternelle comme repère majeur dans la vie d'un enfant ? De lui dire implicitement « Tu oublies tes origines, ce n'est pas si important, tout se passe bien de cette façon aussi. » Il se fait que non, ce n'est pas ainsi que les choses se passent. L'inscription profonde comme une carte mère gravée à tout jamais d'une succession de couches de vie héritées au fil des âges s'éveillera forcément et agira dans sa vie sans qu'il puisse alors faire du lien avec un passé familial et générationnel.
Je crois que la citation est éclairante et elle nous montre finalement la dimension biologique à l'heure où l'on voudrait tout simplement gommer, effacer le lien générationnel, la transmission de génération en génération de ces marqueurs qui font aussi partie de notre identité qui va bien au-delà du simple ADN. Et donc c'est très bien ce qu'elle nous indique et qu'elle souligne, cette inscription profonde comme une carte mère gravée à tout jamais.
Oui. Oui. Mais alors, est-ce qu'on peut entendre la souffrance des parents en mal d'enfant ?
Eh bien oui, Laurence. La souffrance des parents qui aspirent à mettre au monde un enfant, mais qui sont confrontés à la dimension de la stérilité, elle doit être entendue. Mais j'aimerais revenir à la question précédente que je trouve intéressante et qui est finalement posée, qui est celle du désir. Suffit-il de désirer ? Suffit-il d'aspirer, je dirais, à l'accueil de l'enfant ? Eh bien, j'aimerais d'emblée souligner l'importance et l'intérêt de cette question au regard des mots contenus dans la formulation de la question « Suffit-il d'être désiré pour être aimé et être soi, être identité en quelque sorte ?» Chaque mot devrait être appréhendé, de fait, dans toute leur amplitude, à commencer par le mot « désiré ». Le mot « désiré » en soi a des résonances forcément multiformes et s'applique à la dimension même de l'objet. En philosophie, Laurence, la notion de désir se définit comme ce qui nous porte vers une réalité que l'on se représente comme une source possible de satisfaction. Donc c'est la notion de réification que l'on connaît bien en psychologie. C'est-à-dire en fait l'aspiration à faire d'autrui un objet, c'est en ça. Quelque sorte.
Oui, tout à fait.
C'est une notion que connaissent bien les psychologues. Il est ainsi étrange que dans notre monde, nous ne parlions plus de dons, nous ne parlions plus d'accueil. D'ailleurs, lorsqu'on parle de GPA, on parle du transfert d'ovocytes, de transfert de l'embryon. Et c'est bien là une problématique, on n'est plus dans le don et l'accueil de l'enfant à naître. On est dans un rapport à la technique, comme je l'indiquais précédemment.
Quelque part, un échange d'objets.
Voilà, tout à fait. Donc nous serions passés de l'accueil au désiré, et nous entrons de plein pied dans un monde, comme je vous l'indiquais, de réification. Et toujours dans ce cheminement de ma pensée, à propos de la gestation pour autrui, puisque c'est bien une des thématiques de la refonte des lois concernant la bioéthique, et qui est au cœur de notre entretien, nous serions passés finalement du lien générationnel à celle d'une dimension beaucoup plus horizontale.
Oui, Eric, en parlant de ça, vous passez du lien générationnel à une dimension horizontale. Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée ?
Oui, Laurence, et la gestation pour autrui, ce n'est plus la gestation pour l'enfant. Vous voyez ?
Oui,
je pense qu'il faut prendre en compte les termes. Ce n'est plus la gestation pour l'enfant. C'est une gestation pour l'autre, d'accord ? Donc on est dans un rapport à la cliente, en quelque sorte, une dimension beaucoup plus horizontale, une dimension clientéliste qui, forcément, devrait nous interroger tous. C'est de fait, si nous y réfléchissons bien, le déplacement d'un rapport, de la verticalité, du lien transgénérationnel à une dimension d'horizontalité, qui, avec la GPA, s'appuie nécessairement sur les avancées de la science pour faire émerger la vie. C'est bien sur les avancées de la science que l'on fait émerger la vie.
Exactement.
On n'est plus dans un lien naturel. Et donc, on est bien dans un changement de paradigme, un changement sociétal, une mutation, en quelque sorte. Nous sommes là le fruit, les uns et les autres, et nos auditeurs le sont aussi, dans cette génération qui nous écoute, le fruit d'une relation d'un père et d'une mère. Et donc c'est bien toute la dimension de la relation qui est en quelque sorte naturelle, qui est en quelque sorte mise à plat, remise en question. Donc est-ce que le désir suffit à l'accueil de l'enfant ? Ça c'est une question qui doit être posée. Naturellement, avec la dimension du désiré, nous entrons dans un monde qui rêve l'aboutissement d'un homme autoconstruit qui se suffit à lui-même, qui n'a plus besoin de l'autre. Mais au fond, qu'est-ce que cette société qui veut la performance, qui veut l'autosuffisance, qui aspire au désiré, à une norme, et qui n'est plus dans la dimension du relationnel, qui touche l'enfant accueilli tel qu'il est, né depuis des millénaires d'une relation homme et femme, non fécondée par une technoscience, augurant ainsi un monde qui pourrait être le monde que décrivait Orwell, et que d'autres décrivent comme transhumaniste.
Oui.
Donc on arrive, je dirais, dans ce changement de paradigme, finalement un choix entre deux sociétés, une société où l'humanité, je dirais, est prégnante, ou bien un monde transhumaniste.
Tout à fait. Et justement, Eric, j'aimerais revenir sur un propos que vous avez tenu précédemment. Suffit-il d'être désiré et d'être aimé pour construire son identité ?
Cette question de l'identité, elle est difficile. Et je l'ai évoquée dernièrement avec une amie, parce que cette question m'interrogeait. Et elle suggère, je dirais, de prendre connaissance, elle me suggérait, cette amie, de prendre connaissance des travaux de Anne Schaub, psychothérapeute qui, pendant près de 20 ans, s'est spécialisée sur le traitement des mémoires parentales. Donc, la notion de mémoire parentale m'était tout à fait inconnue et évoquait les souffrances infantiles au travers de ces mémoires parentales. Elle est l'auteur d'un livre tout à fait remarquable que l'on recommande auprès des auditeurs. Ce livre s'appelle « Un cri secret d'enfant ». Elle a été notamment, Anne Schaub, entendue par le Parlement européen sur les questions touchant la GPA. Alors, pour reprendre le propos de cette psychothérapeute, « L'amour seul suffit-il dans la construction de l'identité de l'enfant ?» Nous savons aujourd'hui à quel chaos peut mener et aboutir une grossesse qui n'a pas été investie psychiquement par la mère, qui s'inscrit dans le déni de la grossesse. Bien, dans la GPA, il faut comprendre que la personne qui porte l'enfant, donc une gestation pour autrui, ne s'investit pas elle-même dans la grossesse, puisque c'est un autre qu'elle porte pour autrui. Donc elle ne s'investit pas. Donc on peut comprendre de facto l'incidence que cela peut avoir sur ce lien et sur ce rapport utérin, puisque la construction finalement de l'identité de l'enfant se fait déjà très tôt, déjà dans le sein maternel. Et donc, s'il y a rupture, quel chaos nous pourrions alors imaginer lorsque l'enfant découvrira que finalement, il a été conçu sans connaître, je dirais, l'identité d'un père et sans avoir été en fait relié à une mère qui l'a porté.
Oui, c'est ça. Il peut avoir le sentiment de l'abandon.
Oui, c'est ce sentiment d'abandon, justement, qui est décrit par Anne Schaub, qui va parler jusque de souffrance, vécue par l'enfant, qui finalement ne sait quel est le lien qui l'unit à une mère qui ne l'a pas reconnue, une mère qui n'existe pas, qui était d'une... si je puis dire, et si j'utilise ce mot qui n'est pas provocateur, mais un prestataire de service.
C'est ça,
c'est
tout à fait.
C'est une prestation de service. C'est une prestation même technique, puisqu'il a fallu faire une intervention pour implémenter, ça c'est un terme informatique que l'on utilise, mais en quelque sorte, c'est un transfert technique.
C'est ça.
Un transfert technique. Donc, où est, je dirais, cette dimension de la vie qui jaillit de la vie? Donc, on fait naître un enfant finalement hors de ce processus naturel. Et ça, c'est une question qui touche finalement à la dénaturation de la manière de naître. Donc, s'il faut entendre le désir parental, il faut aussi entendre la souffrance des adultes, comme nous y avons répondu précédemment. Cependant, la question de la souffrance de l'enfant, bien sûr, elle est là, elle est prégnante, et il s'agit de prendre la mesure de toutes les conséquences des désirs d'adultes qui peuvent amener plus tard la souffrance dans le cœur des enfants, puis l'inscrire indélébilement dans leur mémoire. Donc faire l'impasse, ignorer les dissociations dans ce rapport utérin, peut conduire à de profonds ravages en n'appréhendant pas toutes les conséquences, toutes les conséquences de la manière de naître et de cette dénaturation de la vie. Alors pour illustrer et conclure mon propos sur cette question, je citerai Laurent, si vous le voulez bien, ce médecin pédiatre, Janusz Kozak, qui s'était engagé toute sa vie pour les droits de l'enfant. Plus le niveau spirituel de l'éducateur est pauvre, plus sa morale est incolore, plus grand sera le nombre des injonctions qu'il imposera aux enfants, non par souci de leur bien, mais aussi pour sa propre tranquillité et son propre confort égoïste. J'aime le terme d'injonction. Et finalement, j'aimerais aussi dire ici que nous ne souhaitons pas être dans l'injonction, mais plutôt être dans le réflexif. Donc proposer à nos auditeurs, plutôt que d'imposer quelque chose comme une forme d'idéologie auquel nous pourrions croire ou adhérer, il s'agit plutôt de souligner la dimension réflexive, réfléchir, je dirais, aux incidences, aux enjeux, aux difficultés, aux conséquences d'une orientation, d'un processus de naissance qui ne s'inscrit pas finalement dans la relation naturelle entre un homme et une femme.
Et qui a un impact sur la société future. Absolument. Merci beaucoup Eric.
Merci Laurence.
C'est avec plaisir que je vous ai accueilli dans nos studios et nous nous retrouverons certainement
Oui.
Le mois
oui,
prochain.
Absolument. Nous parlerons de la chosification de la vie, la marchandisation de la vie. C'est un peu le même registre, mais c'est une continuité, puisque finalement, cette loi sur la refonte de tout ce qui touche le domaine de la bioéthique, oui. Eh bien, couvre de nombreux aspects. Nous pourrons aussi traiter de l'euthanasie, traiter de l'expérimentation sur les embryons. Il y a énormément de choses qu'il conviendrait d'aborder, parce qu'au fond, on touche à l'humain. Et à l'humanité.
Absolument. Merci beaucoup, Eric.
Merci, Laurence.